Oui, ça nous pouvons par conviction le chanter proche de la maison, proche de la maison. Bientôt l'œuvre est accomplie et nous nous reposerons à la maison. Moi, je voudrais vous saluer tous. Vous souhaitez à tous les bienvenus sincèrement de tout mon cœur. Nous estimons cela, que vous veniez tous, et la plupart de loin et de près, vous venez pour écouter la parole du Seigneur, et particulièrement tous les frères dans le ministère qui viennent pour, de manière nouvelle, écouter la parole et pour la porter aussi dans leur église et là où ils sont et la partager avec le peuple de Dieu. Tous, hier soir, nous avons compris ceci est le temps de Dieu, l'heure à laquelle les prophètes ont attendu tel que déjà c'est écrit. Beaucoup ont souhaité voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. Tous les prophètes qui avaient annoncé à l'avance ce qui allait arriver ont souhaité le voir dans son accomplissement. Ils ont souhaité voir l'accomplissement. Tous ont de loin salué la promesse, vu la promesse, ainsi que nous le lisons dans Hébreux, le chapitre 11. Nous avons, en tant qu'Église du Nouveau Testament, nous n'avons pas salué la promesse de loin. Nous avons reçu tout ce que Dieu a promis depuis le commencement de la nouvelle alliance par la grâce de Dieu. Nous avons eu la grâce de le recevoir, de l'expérimenter personnellement. Nous pouvons suivre les traces des desseins du salut de Dieu de Matthieu 1 jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Comment est-ce que tout ce qui avait été promis a trouvé son accomplissement? Nous pouvons le voir déjà dans Matthieu à partir du chapitre 1 et dans les différents chapitres. Toujours de nouveau, cela est arrivé pour que l'Écriture s'accomplisse, C'est la grande grâce que Dieu Dieu peut accorder à un homme. La grande grâce de donner à l'homme de connaître ses voies et de recevoir la révélation de sa volonté et de lui donner la force de marcher dans cette volonté que Dieu lui a révélée, telle que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, de croire comme le dit l'Écriture. Cela est lié à la promesse. Nous voulons vraiment croire de tout notre cœur et recevoir. Si nous croyons comme le dit l'Écriture, alors il faut que le déversement du Saint-Esprit ait lieu. Alors il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alors il faut que, comme c'est écrit ici, des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, de notre corps. Donc tout ce que Dieu a promis par sa grâce, cela doit alors s'accomplir si nous croyons comme le dit l'Écriture. Encore les salutations. Hier soir, il y a encore plus tard des salutations qui nous ont été adressées que nous ne pouvions pas vous transmettre. Nous allons maintenant le faire. En ligne étaient hier 967 ordinateurs du monde entier, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, oui, dans tous les continents. Il y avait en tout 967 ordinateurs en ligne pour avec nous écouter la parole précieuse de Dieu. Et je pense que La parole de Dieu est devenue précieuse pour nous tous. Et que nous avons une liaison directe à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu nous touche. Et qu'ensuite, nous la croyons. Et qu'elle peut ensuite produire l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous avons les salutations de la Russie, particulièrement de Moscou, ensuite de l'Ukraine, tous ceux qui parlent l'Ukrainien, tous ceux qui parlent l'Ukrainien sont aussi bénis. Et je voudrais aussi souhaiter les riches bénédictions de Dieu à tous les frères dans le ministère, même si nous ne pouvons pas citer tous leurs noms. Vous êtes ici de tous les pays voisins, de toute l'Europe, et Dieu le Seigneur qui puisse vous bénir et être avec vous tous. Et mon ami et frère Heinrich Wallström, nous lui souhaitons particulièrement la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Tout à l'heure, il me disait dans le bureau, frère Frank, aujourd'hui, ça fait exactement 40 ans que à Copenhague, dans la réunion, j'ai pu te traduire. Dieu a vraiment dans tous les peuples, les langues et les nations fait en sorte que dans toutes ces différentes langues, la traduction soit possible et que ainsi la parole du Seigneur soit distribuée. Nous avons aussi des salutations de Libreville, du Gabon. Le frère était touché, il disait, frère Franck, nous avons pu tous suivre et entendre et voir. Ensuite, le frère de Melbourne, de l'Australie, a dit, frère Frank, c'est merveilleux de ce que nous pouvons tous, comme ça, en direct, en ligne directe, voir et écouter et être bénis avec vous. Ensuite, le frère Christian de Ottawa. Et ensuite, encore une fois, notre frère Cook de l'Australie, le beau-fils de mon vrai ami, le frère Frankos, qui a un an d'ici, a été repris à la maison. Le Seigneur partout a ouvert des portes. Et je pense encore à cela, à Gisborne, en Nouvelle-Zélande, en 1970, j'avais prêché. Et alors ce frère Frankos de l'Australie vint aussi et disait à la fin, frère Frank, tu dois venir chez nous et nous prêcher la parole de Dieu. Et c'est ainsi que cela a commencé aussi en Australie, d'aller en ville, de ville en ville, pour prêcher là-bas aussi la parole du Seigneur. Ensuite, nous avons des salutations de Turin, aussi des salutations particulières de notre frère Pino Davi de Palermo. Et encore des salutations particulières des frères et sœurs Olvitti et de tous les croyants de la Finlande. Aussi des salutations particulières du frère Gilson. Tous nous connaissons le frère Gilson. Il est avancé en âge. Il ne peut plus comme il le veut, particulièrement conduire. Ce n'est plus possible. Et il salue particulièrement le frère Kupfer, fraternellement. Que Dieu te bénisse, frère Kupfer. Ensuite, nous avons des salutations du frère Paul de Nairobi. Et ensuite, des salutations de Addis Abeba. Et il est souhaité que le plus rapidement possible, je puisse revenir en Éthiopie pour encore une fois là-bas prêcher la parole du Seigneur. Ensuite, nous avons les salutations de Porte Elisabeth, du frère Jetson, et encore une fois les salutations du Tchad et des salutations de Pologne. Bologna, nos frères et sœurs sont liés avec nous et avec le Seigneur. Et si aujourd'hui je le dis ainsi, celui qui est lié, est vraiment lié avec le Seigneur, est lié avec sa parole et est lié avec celui qui la prêche. Il est lié avec Dieu et nous sommes liés les uns avec les autres dans la parole et dans l'esprit et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est, n'est-ce pas, le lien de la perfection. Et alors que nos bien-aimés frères et sœurs avaient chanté ce cantique merveilleux, bientôt son œuvre est achevée. Le Seigneur a pris toute la responsabilité sur lui d'achever son œuvre de la rédemption. Il l'a commencé et c'est lui aussi qui l'achèvera. Et en fait, moi aussi, je ne devrais pas me faire les grands, me donner des grands soucis, mais simplement croire que, en tant que prédicateur, je ne peux rien produire comme effet. Mais la parole que nous prêchons, c'est elle qui produit l'effet pour lequel elle est envoyée en ceux qui la croient. Et je veux aussi le mentionner rapidement parce que cela m'est venu dans le cœur ainsi. Qu'est-ce que je veux encore de plus? En janvier 1981, j'ai vu l'épouse habillés en blanc, tous étaient jeunes dans leur jeunesse et ont été enlevés. J'ai vu cela. Et je suis comme ça. Je ne peux pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère, les choses de Dieu à la légère. En moi, il y a tout le sérieux pour prêcher la parole de Dieu avec le souci que le monde le comprenne. Et aussi à tous ceux qui s'ajoutent nouvellement parmi le peuple de Dieu, ce n'est pas facile comme ça de comprendre tout comme ça en même temps. Mais Dieu accorde sa grâce et nous conduit dans sa parole pas à pas, que ce soit que ça fait 50 ou bien 40 ans ou bien 5 ans ou bien maintenant que nous soyons croyants. Dieu nous ramène tous à l'état actuel dans le royaume de Dieu et nous parle à tous par sa parole. Et tout ce que nous écoutons dans la foi et recevons dans la foi, cela nous sera révélé. Et déjà là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Notre message est le message divin, la parole de la croix et du crucifié, de la réconciliation de Dieu avec l'humanité, du salut que Dieu nous a accordé, pardonner toutes nos fautes, toutes nos transgressions, et par sa grâce, nous pouvons devenir enfants de Dieu et avons, selon Galates 4, reçu d'être établi dans la position de fils. Ça, c'est la chose merveilleuse, la révélation du Père dans le Fils, à cet objectif, avec cet objectif, que nous puissions être ramenés dans la position de fils, recevant la vie éternelle, étant devenu fils et fille de Dieu, et la même vie de Dieu, nous avons la grâce de la porter en nous, la même vie, telle que la vie a été manifestée dans le Fils de Dieu. C'est ainsi qu'elle est manifestée en nous, les fils et les filles de Dieu. Et nous n'avons pas du temps à perdre pour discuter sur quoi que ce soit, mais nous sommes devenus une partie de ce que Dieu, depuis l'éternité déjà, a préparé pour nous. Mais regardez, bien-aimés frères et sœurs, nous venons de différents pays, de différentes confessions, de différentes doctrines que nous avons amenées avec nous. Mais en cet endroit, la parole de Dieu originale est prêchée et l'enseignement pur de la Bible est placé sur le chandelier. Notre Seigneur lui-même disait, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et celui qui veut faire sa volonté reconnaîtra que cet enseignement vient de Dieu. » Jean 6, verset 16. Donc, pas ma volonté, pas notre enseignement, pas ton enseignement, mon enseignement, mais la parole de Dieu véritable, originale, qui demeure éternellement. Et Paul, ou bien Pierre l'a dit, ça, c'est la parole que nous vous avons prêchée en tant qu'évangile. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20-21. Donc, pas une certaine parole, mais la parole originale de Dieu que nous avons prêchée, qui demeure éternellement en tant que l'évangile. Et si nous pouvons encore dire la remarque suivante. La grâce que Dieu nous a vraiment accordée, c'est d'ordonner toutes choses bibliquement. Je pense maintenant particulièrement aussi à Israël, à un homme aussi qui, là-bas, veut jouer le rôle principal. Et quand nous allons à Zacharie 13, où il est écrit, frappe le berger et le peuple s'éparpillera. Mais c'était pas tout. On peut encore le lire dans Matthieu 26, on peut le lire dans Marc 14. Et au prochain verset, il est écrit que le tiers seront détruits et le dernier tiers, trois tiers seront détruits et le dernier tiers seront blanchis. Et maintenant cet homme n'a rien à faire d'autre. Il croit à la Trinité et il prêche aux Juifs que les derniers vont encore devoir mourir parmi vous, et il leur prêche une parole qui est vraiment rien que du blasphème. Ensuite, à Jérusalem et en Israël, et il pense plaire à Dieu et servir Dieu. Je vais vous lire cela pour que vous puissiez savoir ce que je veux dire. Et aussi à cela, justement, cette remarque. Comme c'est important de comprendre la parole prophétique, de vraiment la comprendre. Ici, dans Zacharie, chapitre 13, verset 7, il est écrit, « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Cela est à lire dans son accomplissement, dans Matthieu 26, verset 31. Cela est à lire dans son accomplissement, dans Marc 14, verset 27. Et maintenant suit le prochain verset que cet homme particulièrement ici prêche, dans Zacharie 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Mais tout cela s'est déjà accompli. Pourquoi est-ce que cet homme-là devrait ici apporter la confusion parmi le peuple, parmi le peuple d'Israël qui est passé par tant de difficultés déjà et de problèmes. Pourquoi est-ce que cet homme devrait venir ici et donner sa propre interprétation à cette écriture et dire des choses qui en fait se sont déjà accomplies et veut encore ici prêcher la destruction et l'extermination? Les Saintes Écritures nous enseignent que les deux témoins, les deux prophètes viendront à Jérusalem, selon Zacharie 4, et cela après que l'Église de parmi les nations soit achevée et enlevée. Et ils vont, dans un mandat divin, prêcher la parole de Dieu, ces deux prophètes. Et c'est sous leur prédication que les élus des 12 tribus seront appelés à sortir d'Israël et seront scellés déjà dans Zacharie chapitre 4. Cela est annoncé à l'avance, où nous voyons, n'est-ce pas, le chandelier avec les sept conduits pour les lampes, tel que cela est montré dans le livre prophétique. Et ensuite, dans Apocalypse, chapitre 1 et 2 et 3, nous voyons de la même manière le chandelier de sept conduits, mais pas à côté, à droite et à gauche de ce chandelier, pas dans le chandelier, mais à sa droite et à sa gauche, pas à l'intérieur du chandelier, mais à droite et à gauche, à côté du chandelier, comme c'est écrit dans Zacharie 4. C'est pour montrer comme ça un symbole prophétique que les deux prophètes ne sont pas à l'intérieur du temps de l'Église, de l'âge de l'Église, mais seulement après que l'œuvre de Dieu dans l'Église du Nouveau Testament de tous les peuples, les langues, les nations arrivera à sa fin et que la totalité des nations sera entrée. C'est après cela que les deux prophètes apparaîtront et effectueront leur ministère pendant 3 ans et demi. Alors, l'alliance sera brisée. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, s'accomplira quand l'Antichrist alors viendra et s'assiera dans le temple de Dieu et ôtera, vouloir ôter et l'Holocauste et annuler la loi, etc. Alors, le Seigneur viendra et le frappera du souffle de sa bouche. Tout cela va s'accomplir tel que Dieu, dans sa parole, l'a annoncé à l'avance. Tout est la grâce de Dieu de comprendre ces choses correctement et de les dispenser aussi correctement. Et nous allons encore devoir répéter toutes ces choses. La grâce de Dieu de ne rien savoir, de ne rien pouvoir, mais simplement d'être dépendant entièrement de Dieu et de sa révélation. C'est pour ça que nous demandons, Seigneur, conduis-moi réellement par ton esprit, même pendant que je lis la Bible et ta parole, pour que je puisse dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux, s'accomplit devant nos yeux, et ce qui n'est pas encore accompli va encore s'accomplir, aussi certain que Dieu l'a dit et l'a promis, et aussi certain qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Rapidement, je me suis noté les différentes venues du Seigneur. Dans Matthieu 25, le Seigneur vient en tant qu'époux pour prendre son époux auprès de lui. Matthieu 25. Dans Matthieu 25, à partir du verset 31, il vient en tant que fils de l'homme. Il s'assied sur le trône de sa gloire et tous les peuples seront rassemblés devant lui et ensuite il jugera parmi les nations, entre les nations. Ça, c'est tout à fait une autre venue. Pas en relation avec le festin des noces de l'agneau, mais en relation avec le jugement qu'il tiendra entre les nations. Et ensuite, celui qui va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 3, il voit ici que le Seigneur vient dans le feu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Ce qui va ensuite dans Apocalypse, il vient au verset 7, 1, verset 7. Il vient et tous les yeux le verront, tous ceux qui l'ont aussi percé. Et ensuite, jusqu'à Apocalypse 16, quand il est parlé de l'Armageddon, voici, je viens comme un voleur. Et ensuite, jusqu'à Apocalypse 22, voici, je viens. Donc, des différentes venues dans différents contextes qui appartiennent tous au dessein du salut de notre Dieu. Mais pour comprendre cela, bien-aimés frères et sœurs, celui qui lit le dernier chapitre de l'Apocalypse constatera combien de fois il est parlé de l'épouse et du festin des noces de l'agneau. Il n'est plus parlé de tous les jugements de trompette. Il n'est plus parlé des sept coupes. Il n'est plus parlé de colère. Donc, il n'est plus parlé de tout cela. Mais dans Apocalypse 22, complètement à la fin, la parole de Dieu, le dernier message est adressé à l'épouse. Et complètement à la fin, le contexte ici nous révèle que l'esprit et l'épouse disent: disent, viens Seigneur Jésus, et que celui qui entend dise, viens. Ensuite, il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 d'Apocalypse, et il est dit tout de nouveau, celui qui vaincra héritera toutes ces choses. C'est écrit sept fois dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 3 en tout. Sept fois. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, celui qui réellement vaincra tous les obstacles qui se tiennent sur notre chemin, vaincra, héritera toutes ces choses. Il vous dit que l'adversaire va tout faire pour mettre des obstacles sur notre chemin. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons vaincre toutes ces choses et nous atteindrons le but. Combien peuvent croire que le Seigneur, avec toi, avec moi, avec nous, achèvera son œuvre? Amen. Amen. Oui, bien sûr. Et ça, nous le disons tous de nouveau, d'une manière nouvelle. Si il n'achève pas son œuvre avec ceux qui croient maintenant, qui croient ses promesses pour l'heure, qui suivent le Seigneur dans l'obéissance, si il n'accomplit pas son œuvre avec ceux-là, avec qui alors est-ce qu'il devrait le faire? Avec les charismatiques et l'esprit pentecôtiste et les pentecôtistes, ou bien alors avec ces 341 églises qui sont tous inscrites dans le Conseil mondial des églises? Non, non, c'est dans l'église appelée à sortir, qui est mise à part, qui est séparée de tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui appartient à Dieu, rachetée par le sang précieux de l'agneau. Et c'est ainsi que nous attendons le retour du Seigneur et savons qu'il reviendra. Il est aussi écrit que le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de sa promesse comme certains pensent qu'il tarde à accomplir. Mais il ne veut pas que quelques-uns périssent. Il veut et il peut seulement revenir quand la totalité des nations sera entrée, quand le dernier sera appelé à sortir et introduit dans l'église épouse. C'est à ce moment-là seulement que les portes se fermeront et que le retour du Seigneur Jésus-Christ aura lieu. Que nous avons la grâce de prendre part à ce que Dieu fait maintenant, c'est seulement la grâce de Dieu. De prendre part à tout ce que Dieu fait maintenant, c'est seulement la grâce de Dieu. Et qu'il ait loin nos yeux et qu'il nous ait accordé la révélation sur toutes ces choses. Et on peut, c'est seulement la grâce de Dieu. Et on peut aussi le lire dans Luc 24. C'est seulement au moment où le Seigneur, en passant par Moïse et les psaumes et les prophètes, c'est à ce moment-là où il s'est entretenu avec ses disciples de l'accomplissement de toutes ces choses, en disant, est-ce qu'il ne fallait-il pas que toutes ces choses-là s'accomplissent, ce que Dieu par Moïse, par les psaumes, dans les psaumes et les prophètes a dit. Alors il est écrit même qu'il leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures, pour que eux aussi ils puissent ordonner les choses à leur place et comprendre que tout cela s'est accompli. Ainsi nous voyons de Matthieu, le premier chapitre aussi, tout cela s'est accompli pour que cette Écriture s'accomplisse. Et toujours de nouveau, tout cela est arrivé pour que l'Écriture s'accomplisse. Toujours de nouveau, jusqu'à Jean 19, où il est écrit pour que s'accomplisse ce que Dieu, par les prophètes, a dit. Et les disciples, particulièrement aussi, eux, dans les quatre évangélistes, ont donné un compte rendu complet de la naissance du Seigneur jusqu'à sa montée au ciel.
Un
compte rendu complet de notre Seigneur. Ils étaient présents, ils ont tous entendu et ils ont tous vu eux-mêmes, de leurs propres yeux, entendu de leurs propres oreilles. Et Jean lui-même dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, de la parole de la vie, c'est ce que nous vous prêchons. Et tous ceux qui, dans la foi, écoutent la prédication et la croient et la reçoivent, c'est à ceux-là qu'elle sera révélée. Nous pouvons de nouveau aller à ce sujet que le Seigneur, dans cet âge prophétique, a envoyé un ministère prophétique. Et de quoi il s'agissait en fait? Est-ce qu'il s'agissait que nous puissions glorifier un homme? Non. Notre attention a été attirée sur la prédication de la parole de Dieu originale, telle que Jean-Baptiste n'avait pas frayé un chemin pour sa personne, pour son ministère, mais pour le Seigneur. C'est ainsi aussi dans notre temps. L'homme de Dieu n'a pas sonné de la trompette, n'a pas sonné sa propre trompette et préparé son propre chemin, mais par la trompette qu'il a fait retentir, il a rassemblé le peuple de Dieu, il a lié le peuple de Dieu avec son Dieu et il a frayé tout obstacle du chemin, comme c'est écrit dans le prophète Ésaïe. Frayez tout obstacle du chemin de mon peuple. Il y a eu assez d'obstacles dans tous les différents, par toutes les différentes doctrines et interprétations et par ce qui a été décidé dans les différents conciles. Tout ça, ça a été des obstacles pour le peuple de Dieu. Et disons-le avec la douleur de tout notre cœur, toutes ces confessions-là ont accepté cette confession de foi, que ce soit qu'elle ait été inventée au concile de Nicée en 320 ou bien 328 à Chalcédon, ou bien alors en 481 dans le concile là-bas d'Éphèse. Tous ont fait que reprendre ces différents dogmes et enseignements, de manière que le conseil mondial de l'Église est la mère, selon Apocalypse 17, et toutes les autres églises sont leurs filles. Et tous ont bu de cette coupe de Babylone. Et tous ont perdu le sens. Bien-aimés frères et sœurs, répétons encore ces choses. L'appel à sortir de tout est la chose la plus nécessaire dans ce temps. Dans l'Église de Jésus-Christ, rien, pas un seul morceau de vieux levain a le droit d'être dans l'Église du Dieu vivant. rien d'enseignement étranger d'interprétation. Aucun levain n'a le droit de rester dans l'Église, d'être dans l'Église, d'être autrui. Rien qui est sorti de Rome, qui a son origine à Rome. Mais nous devons revenir à Dieu, revenir au commencement, revenir à sa parole. Et ça, c'est le message de l'heure que Dieu, par sa grâce, nous a confié. Le message qui devait aller comme précurseur dans le monde entier avant le retour de Christ. Et si nous lisons dans Actes apôtres chapitre 2, et voyons comment est-ce que tout a été ordonné par Dieu lui-même, la conversion, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, tout a eu lieu, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Samarite, que ce soit dans la maison de Corneille, que ce soit dans Actes des Apôtres chapitre 19, le modèle biblique a eu lieu toujours et toujours de nouveau. Et on pouvait s'orienter par cela et comprendre que c'était Dieu qui agissait toutes ces choses-là dans les croyants. Et cela, pas seulement au commencement à Jérusalem, mais partout où la parole était prêchée, des hommes sont devenus croyants et se sont laissés baptiser et ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous voulons croire, comme le dit l'Écriture, croire comme c'était au commencement, comme c'était passé au commencement, que ce soit à Jérusalem, en Samarie, partout où la parole de Dieu était prêchée, que ce soit dans toute l'Europe ou bien dans le monde entier. Dieu est le même. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. S'il vous plaît, attendons-nous à cela. Si nous ne le souhaitons pas de notre cœur et ne l'attendons pas, et disons, Seigneur, je me place sur ta promesse. Je ne te laisse pas si ce n'est que tu me bénisses. Je ne te laisse pas si ce n'est que tu me remplisses du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que les choses vont se passer pour nous comme ça s'est passé avec Jacob. Le matin apparut et il était lié avec le Seigneur et Dieu l'a béni. Dieu jusqu'à maintenant nous a conduit, jusqu'ici nous a conduit, et il continuera à le faire jusqu'à la fin. Nous voulons simplement rapidement lire quelques versets bibliques. Aujourd'hui, du sermon sur la montagne, pour nous examiner devant le Seigneur et pour voir est-ce que ce que le Seigneur a dit ici est déjà devenu en nous une réalité. Il est écrit ici, dans Matthieu, le chapitre 5, ici, ça devient très personnel. C'est très personnel. Il ne s'agit pas d'une parole prophétique. Ici, il ne s'agit pas d'un enseignement. Ici, il ne s'agit pas d'un ministère qui, dans l'Église, doit s'effectuer. Ici, il s'agit de comprendre ce que le Seigneur a dit autrefois et a adressé à son peuple jusqu'à aujourd'hui. Ces choses sont adressées à nous. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 3. Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je n'ai jamais vu qu'il y ait des gens qui sont ici riches spirituellement, en esprit. Mais ici, nous ne venons pas devant ici pour prêcher la parole de Dieu avec de l'orgueil ou bien quoi que ce soit, en pensant que nous savons tout et que nous pouvons dire tout. Non. Non, nous sommes dépendants du Seigneur et nous sommes dépendants, nous attendons à lui. C'est lui qui doit accorder la parole, sinon nous n'avons pas de parole. Personne ne peut se glorifier de penser être riche en esprit. Non, nous sommes pauvres, pauvres en esprit. Mais c'est le Seigneur qui nous enrichit toujours de nouveau par sa parole et nous accorde ce dont nous avons besoin. Ensuite, verset 4. Bénis les affligés, car ils seront consolés. Il y a beaucoup d'afflictions qui pourraient nous rencontrer, nous toucher. Et tous nous savons que nous serons consolés. Et notre Seigneur lui-même dit dans Jean 16, si quand je me serai allé de vous, quand je me serai élevé, je vous enverrai le Consolateur. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons reçu le Consolateur et que Dieu nous accorde par son esprit la consolation, par sa parole, pas la consolation qu'un frère peut transmettre ou bien qu'une sœur peut transmettre, mais par le Consolateur lui-même. Nous pouvons être consolés et savoir qu'il ne nous trompe pas. Non, il nous console réellement par la consolation que nous procure l'Écriture, par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, en nous trouve son accomplissement. Ensuite, le verset 5. Bénis les débonnaires, car ils hériteront la terre. En allemand, bénis ceux qui sont doux. La douceur, c'est un fruit de l'esprit, selon Galates 5. Bénis ceux qui sont doux. Et que Dieu puisse nous accorder cette douceur, la douceur en tant que fruit de l'esprit. Et comme Paul pouvait dire, que votre douceur soit connue de tous les hommes, de tous les hommes. C'est écrit dans Philippe 4, dans Tite chapitre 3. Ensuite, au verset 6, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cela aussi te concerne, me concerne. Déjà, la faim et la soif que Dieu a mis en nous, comme aussi dans le prophète, s'il est écrit, où est-ce que c'est écrit dans Amos 8, verset 11, que Dieu n'enverra pas une faim envers le pain et une soif envers l'eau, mais une faim d'écouter la parole de Dieu. Et que les hommes iront d'un pays à l'autre, seulement pour écouter la parole de Dieu, quitteront d'un pays à l'autre. Donc nous avons faim et nous avons soif de la justice que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Pas ta propre justice, pas une propre justice, mais telle que Paul particulièrement dans Romains 4 et dans d'autres Écritures aussi le dit, justifié par la foi, justifié par le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. Le verset 7, bénis les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Ensuite, suit le verset le plus important de tous, verset 8. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tout ce qui est écrit avant ce verset 8 appartient à ce verset 8. Et tous ceux qui ont reçu dans leur cœur tous ces différents versets-là, du verset 3 au verset 7, et en qui ces choses-là sont manifestées, ont un cœur pur. Si tout ce que nous avons lu avant le verset 8, est devenu une réalité dans notre vie, dans notre marche, c'est à ce moment-là que notre cœur est pur et que nous verrons Dieu. Ensuite, c'est écrit au verset 9, « Bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Bénis ceux qui procurent la paix. Pas ceux qui sont toujours prêts à faire des disputes, mais qu'ils procurent la paix parce qu'eux-mêmes, ils ont la paix de Dieu dans leur cœur et ils la procurent aux autres par ce qu'ils disent et par leur comportement. Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ensuite, bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Dieu a exprimé ces paroles-là, ces paroles de bénédiction. Il nous les a adressées et il veut qu'elles soient manifestées en nous. Encore au verset 13, nous lisons, vous êtes le sel de la terre. Ici, notre Seigneur résume tout ce qui a été dit avant est maintenant manifesté. Vous êtes le sel de la terre. Sommes-nous le sel de la terre? C'est ainsi que le Seigneur l'a dit. Et c'est ainsi que cela demeure vrai. Mais malgré tout, l'avertissement suit au verset 13. Nous continuons le verset 13. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous devons faire attention à ce que nous ne perdons pas notre saveur, que nous ne devenions pas tièdes et froids, mais restons pleins de faveur dans l'esprit, tel que c'est écrit dans Romains 12, verset 9, et servir le Seigneur et aller de l'avant dans la foi. Au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Que notre Seigneur est la lumière du monde, ça nous le savons tous. Mais maintenant, il a transmis cela à son Église, que nous puissions transmettre sa lumière dans le monde. Jean vint pour rendre témoignage à la lumière et nous sommes venus aussi pour rendre témoignage à la lumière. Et ici est le point. Tout ce que le Seigneur voulait que nous soyons, que nous devenions, il l'est devenu et il nous l'a accordé. Et quand est-ce que nous deviendrons porteurs de la lumière? Quand nous ne marchons pas contre la lumière, pour ne pas être éblouis par la lumière, mais quand nous pouvons dire que ta parole est ma lumière sur mon sentier et que nous marchons dans la lumière de la parole pour la transmettre aux autres, pour transmettre cette lumière divine aux autres. Et frère Branham ici a souvent utilisé cette parole de Zacharie 14, que la lumière paraîtra au temps du soir. Et nous sommes simplement, nous voyons ici, en ce qui concerne le temps de la grâce, le temps du salut, c'est ainsi que nous comprenons que nous sommes tard, le soir du temps de la grâce, et que l'heure de minuit est en train d'approcher. La lumière paraîtra au temps du soir, et la lumière apparut, et cette parole est accomplie devant nos yeux, et toute la parole prophétique nous a été révélée, et elle est devenue pour nous une lumière que nous pouvons porter. Bien, mes frères et sœurs, nous pouvions ici aller à Jean 15, où le Seigneur disait, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Pourquoi est-ce que Dieu le Seigneur a comparé l'Église en tant qu'un chandelier? L'Église est le chandelier. Et il y a ensuite les sept lampes dans les sept âges de l'Église. Ensuite, il y a les sept messagers et les sept messages qui sont adressés à l'Église, qui ont été adressés à l'Église. Et ensuite, nous nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et notre Seigneur dit, celui qui cache sa lumière sous la table, à quoi est-ce que la lumière lui servira? La lumière doit être placée sur le chandelier pour que tous ceux qui rentrent soient éclairés. Et que Dieu soit remercié, Dieu soit remercié de ce que nous n'avons pas caché la parole révélée, la lumière, quelque part sous la table. Nous l'avons placé sur le chandelier et la parole révélée brille comme une lumière et nous pouvons marcher dans cette lumière et aller de l'avant avec notre Seigneur jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Que la lumière a paru au temps du soir. La lumière a paru. Pas quelque part, pas qu'elle va paraître quelque part dans le futur, mais qu'elle a paru. Et qu'elle apparaît, elle a paru auprès de pour toi aussi, par moi. Chez moi, chez toi, la lumière a paru, oui. Oui. Tout ce qui était caché a été, n'est-ce pas, révélé. Et combien de fois est-ce que nous devrions encore en cet endroit le dire? Le premier verset d'Apocalypse, qu'est-ce que le premier verset signifie? L'Apocalypse, ça veut dire dévoiler, et dans le grec, c'est ainsi que quand quelque chose est complètement couvert et que personne sait ce qui est dans le couvercle, alors vient l'apocalypse, c'est-à-dire révéler ce qui est couvert, découvrir, dévoiler. Alors on voit ce qui était caché auparavant. C'est ainsi que Paul écrit aux Corinthiens que ce voile ne peut que être ôté en Christ. Seulement dans la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi que le voile est ôté pour nous et que nous pouvons voir ce que Dieu a préparé pour nous et aussi ce qu'il a promis dans son accomplissement, le voir. Ensuite, au verset 17 de Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça aussi, c'est une parole très importante. Dieu n'a rien aboli de tout ce qu'il a ordonné et commandé. Encore aujourd'hui, tout est valable. Tout ce qu'il a dit dans les 10 commandements. Et encore aujourd'hui, chaque enfant de Dieu accomplit tout ce que le Seigneur a dit. La loi a été donnée pour justement nous convaincre du péché, pour que nous puissions nous reconnaître pécheurs. Si quelqu'un, par exemple, transgresse la limitation de vitesse, alors la loi vient et nous recevons une amende, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi avec la loi de Dieu. Si nous pouvions aller rapidement dans Exode chapitre 20 pour lire là ce qui a été prononcé en tant que première chose par la bouche du Seigneur dans la loi donnée, ce qui a été dit directement dans Exode, le chapitre 20, le verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, etc., etc. Vous savez pourquoi est-ce que je porte avec moi toujours cette image-là dans ma Bible avec la représentation de la Trinité. Et ça, je montre cette image-là partout. Dieu est un seul. Dieu est constitué d'une seule personne. Il n'est pas constitué de trois personnes. Il est dit, tu ne te feras pas de représentation. Pardon. Et tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. On ne peut pas dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Trois personnes. Pas une unique fois dans la Bible, il est écrit Dieu le Fils. Mais toujours Dieu, ou bien toujours le Fils de Dieu. Pas une unique fois, il serait écrit Dieu le Saint-Esprit. Mais toujours l'Esprit de Dieu. Ou bien alors le Saint-Esprit. Nous devons revenir à la parole de Dieu et croire comme le dit l'Écriture. Le peuple a été trompé et égaré. Et nous devons aujourd'hui revenir au commencement et être rapporté au commencement. Ensuite, il est écrit au verset 7 de Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En allemand, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prononce son nom en vain. Il y en a qui sortent au sabbat, etc. On doit toujours aller au chapitre 30 pour constater que Dieu, des 10 commandements-là, a seulement sorti un seul des commandements de ces 10 et l'a attribué uniquement au peuple d'Israël en tant que signe éternel. Mais pas à l'Église du Nouveau Testament. Et là aussi, on doit exactement faire attention, exactement continuer à lire pour savoir ce que Dieu a vraiment dit. Et ensuite ici, au verset 11 dans Exode chapitre 20, verset 10, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Au verset 11. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, verset 11. C'était la raison. Je vais encore tout de suite lire ce que j'ai mentionné, mais ici, il est écrit encore au verset 12. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Est-ce que Dieu a pu abolir cela? Non! Dieu nous a accordé la grâce de vivre la parole. Tout cela n'est pas aboli, mais nous devons le vivre, le mettre en pratique. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ensuite, nous continuons. Tu ne tueras point. Est-ce que Dieu a pu abolir cela? Non. Dieu nous a accordé la grâce d'accomplir sa parole. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu n'a permis à personne de prendre la femme d'un autre et d'avoir des rapports avec elle. J'ose même dire que dans le message de la fin des temps, dans tous les véritables croyants, il n'y a pas un seul croyant qui pourrait prendre la femme d'un autre et ainsi vivre dans l'adultère. Dieu n'a pas aboli cela. Dieu a accordé à toutes ces choses-là la grâce de respecter sa parole, respecter et aussi de la vivre. Et ensuite, ici encore, au prochain verset, le verset 15, tu ne voleras point. Oui. Pourquoi? qui, tu ne déboureras point, tu ne déroberas point. Ensuite, verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Combien de croyants se trompent eux-mêmes? Oh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, calomnier qui ils veulent, comme ils le veulent, parler, critiquer, comme ça les dérange même pas, et ils pensent être dans la grâce. Non, celui qui est dans la grâce de Dieu, il vit la parole de Dieu. En tout ce qui est écrit, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Il vit chaque portion de l'écriture. Tel qu'il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, verset 17, encore une fois, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, Dieu n'a rien aboli. Dieu nous a accordé la grâce d'accomplir chaque parole de la loi. Et la parole de Dieu dans notre vie, la vivre, et ainsi elle s'accomplit, elle devient chère. Encore le verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. La parole que Dieu avait adressée à Moïse était tellement puissante. Elle était accompagnée de trompettes, de retentissements de trompettes. Elle était accompagnée de flammes, de tonnerres. Le peuple a été terrifié, saisi de crainte. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu doit aussi en nous produire la crainte. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, mais que nous devons, que nous avons été même déterminés à ne pas seulement écouter la parole de Dieu, à savoir tout, mais à la vivre et à la mettre en pratique. Encore dans Moïse 20, verset 31, pour que tous puissent savoir, Exode chapitre 31, pour que tous puissent savoir ce qu'il a ordonné, ce qu'il a commandé, ce qu'il a introduit, dans Exode chapitre 31, verset 16. Et 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat. Qui? Les enfants d'Israël. Qui? Pas les Français ou bien les Allemands ou bien les Autrichiens ou bien les Suisses. Mais les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. En allemand, une obligation éternelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. 46 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Si ensuite nous lisons les livres des adventistes qui simplement prétendent celui qui observe le dimanche, celui qui n'observe pas le dimanche, celui qui observe le dimanche à la marque de la bête, Ensuite, ils vont dans Apocalypse chapitre 1 et parlent du jour du Seigneur et disent le jour du Seigneur. C'est le sabbat. Le sabbat, c'est le sabbat. Et le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ensuite s'accomplira ce qui s'accomplira. Mais ce sont des incompréhensions, ce sont des interprétations. Plein de livres sont écrits seulement sur le sabbat pour égarer les hommes et tromper les hommes. Et ici est contenu le problème. Bien mes frères et sœurs, Satan utilise toujours la parole de Dieu, mais ne demeure jamais dans la parole de Dieu qu'il utilise, mais il reste dans l'interprétation et qu'il donne à la parole. Mais nous avons la grâce de discerner la différence. Nous sommes dans la parole, nous n'interprétons pas la parole, nous laissons chaque écriture dans le contexte et là où il est écrit, nous ne le déplaçons pas. Et nous respectons aussi le contexte où un verset est écrit et nous demeurons dans la parole de Dieu. Nous n'en parlons pas seulement. Résumons de quoi il s'agit ce week-end. La fin des temps est là, son retour est proche. Hier, ici, dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, même les négociations sur le temple, la maison du temple de l'Éternel, aussi sur la maison, pardon, sur la montagne de Sion, il y a des négociations actuellement. Et depuis combien d'années il y a eu tant de négociations, et comme déjà hier il a été déjà annoncé que ces négociations-là vont aboutir maintenant dans leur phase finale et qu'il y aura un contrat comme fondement qui sera fait, un contrat. Une alliance. Bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas nous faire peur les uns les autres. Mais nous voulons, par ce qui se passe actuellement, dire quelle heure il est à l'horloge du monde. Nous ne pouvons pas ici entrer dans le prophète Daniel, dans le chapitre 4, dans le dernier chapitre, et dans le quatrième empire, dans le dernier empire, le chapitre 9, verset 27, etc., et toutes ces choses, chapitre 2, chapitre 7, mais nous voulons toujours les mentionner et dire, nous sommes arrivés, pas seulement à la fin, mais à la fin du temps de la grâce, à la fin du temps de la fin, et il n'y a pas de solution pour les problèmes financiers et économiques et politiques. Ils peuvent ici annoncer un drapeau l'un après l'autre, un secours l'un après l'autre, une solution de crise l'une après l'autre. Non. Il y en a un ensuite qui viendra et qui prononcera le dernier mot et tout le monde entier va l'écouter. Nous savons qui est cet homme. Et nous savons que tout le monde économique et toute la Banque mondiale et toutes les banques sont sous cette institution religieuse, économique et politique. Toutes ces organisations, ces systèmes-là sont soumis à cette institution. Le peuple d'Israël est revenu dans son pays de tous les peuples, les langues, les nations. Et comme le Seigneur disait, quand vous verrez que le figuier devient tendre, alors vous reconnaissez par cela que l'été approche. À chaque fois, nous avons toujours de nouveau étonné de voir le figuier. Le figuier est l'unique arbre qui n'a pas de tige. Tout de suite après la branche, il n'a pas un laps de temps comme ça où la tige se développe. Directement, le fruit apparaît. Directement, sans la procédure de croissance, directement, le fruit apparaît. C'est le seul arbre qui est comme ça. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez que le figuier devient tendre, reconnaissez, et aussi tous les autres arbres, alors reconnaissez que le temps s'est rapproché. Le temps est là et nous avons la grâce aussi de reconnaître que le dernier message atteint les derniers jusqu'aux extrémités de la terre et que vraiment les derniers seront appelés à sortir pour que la totalité des nations entre et que le Seigneur puisse revenir en ayant d'abord rétabli toutes choses. Et que nous puissions demeurer dans la parole, comme aussi nous avons lu sur le sermon de la montagne, que nous soyons retrouvés dans toutes ces choses. Si nous prétendons être ceux qui sont vraiment les bénis du Seigneur, alors voilà les bénédictions que le Seigneur nous accorde, Matthieu 5, nous l'avons lu, et que toutes ces choses-là puissent s'accomplir dans notre vie, et que, qu'il puisse nous accorder la grâce, que vraiment tous les croyants jusqu'aux extrémités de la terre soient bénis. Bénis tel que le Seigneur l'a dit sur le serment de la montagne. Bénis de cette manière. Et ça, c'est la dernière promesse donnée à Abraham dans Genèse chapitre 12. Celui qui te bénit sera béni. Tu seras béni. Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et ensuite, dans Galates, le chapitre 3, en Jésus-Christ, la semence, la descendance d'Abraham, tous les peuples ont été bénis. Et nous aussi, nous sommes par la grâce de Dieu bénis. Nous avons été bénis. À lui, le Dieu Tout-Puissant, lui à qui il a plu de nous appeler à sortir, de nous séparer de tout ce qui ne vient pas de lui, de nous accorder la grâce de nous purifier, de nous blanchir, de nous sanctifier, de nous laver dans le sang de l'agneau, mais aussi de nous laver dans le bain, dans le lavage de la parole, de toutes les manières d'ici, en toutes choses, être blanchi pour que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit de chacun de nous. Et s'il vous plaît, retenez cela. L'Église est le chandelier et le Seigneur a accordé la lumière au temps du soir. Et nous avons le devoir de porter cette lumière divine et de la faire rayonner, comme c'est écrit dans Jean 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ensuite, accompli dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Vous, bien-aimés frères et sœurs, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là vous surprenne. Mais vous êtes enfants de la lumière, enfants du jour. Donc que Dieu puisse confirmer sa parole en nous, révéler sa parole en nous et la confirmer que, en tant qu'Église dans son entièreté, nous puissions porter le dernier message. Je voudrais de tout mon cœur remercier tous pour vos prières qui m'accompagnent, qui nous accompagnent, nous en tant que frères dans le ministère, dans tous les peuples, les langues et les nations, vos prières qui nous accompagnent et que tous nos frères dans tous les peuples, les langues, que tous les frères puissent distribuer la même nourriture, le même message, la même parole, qu'ils puissent le faire au nom du Seigneur et transmettre ce que Dieu nous a confié. Et tel que hier soir déjà nous le disions, aussi de Matthieu 24, il fallait que tout cela s'accomplisse. Le Seigneur a envoyé une fin, nous a confié sa parole et nous a établi sur tous ses biens. Jamais auparavant, le dessein du salut de notre Dieu, le dessein de la rédemption, le plan de la rédemption a été révélé dans une telle grandeur, profondeur et largeur et hauteur comme dans notre temps. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour nous révéler la parole prophétique et la placer sur le chandelier. Tous les enseignements, tout ce dont nous avions besoin, nous a été accordé par Dieu et nous le recevons. Recevez-vous cela? Alors dites Amen à haute voix.
Amen.
Que Dieu le Seigneur vous bénisse tous et soit avec nous tous dans le monde entier, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour encore prier ensemble. Et aujourd'hui, nous allons aussi de nouveau remettre au Seigneur toutes les requêtes pour tout, qu'il soit
ob sie irdische Nöte haben, Leibesnot haben,
geistliche Nöte haben, gens qui ont des difficultés, des problèmes, quoi que ce soit, nous voulons ensemble faire confiance au Seigneur. Dans chaque réunion dans laquelle notre Seigneur était présent, tous ont été aidés. Il n'a renvoyé personne. Tous ceux qui vinrent à lui, il les a secourus et il est encore aujourd'hui le même. Le salut, la guérison, la révélation, la justification, le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Et la guérison de la part de Dieu nous a été accordée dans le saint nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et la parole de la croix est encore aujourd'hui une puissance de Dieu. Parce que le crucifié, le troisième jour, est ressuscité. Mort et enfer ont été vaincus. Et en tant que victorieux de Golgotha, il se révèle au sien. Après sa résurrection, 40 jours, il est resté avec eux et il les a enseignés sur le royaume de Dieu. Et il a dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à que vous receviez la promesse du Père. Tout le reste sont des promesses. Mais cette expérience-là de la puissance d'en haut est désignée, est appelée promesse du Père au singulier. La promesse du Père. Et elle est valable pour tous les fils et les filles de Dieu. Oh, que le Seigneur nous accorde la grâce aussi en ce qui concerne cela, de recevoir la révélation de chaque parole et de savoir où est-ce que les choses ont leur place dans leur accomplissement par la grâce de Dieu et dans leur réalité aussi de les expérimenter personnellement. Avant la prière, nous courbons les têtes et fermons les yeux, mais ouvrons nos cœurs dans la foi. Acceptez cela. Acceptez cela. Ce ne sont pas des paroles que nous apportons de nous-mêmes. Ce sont des paroles de Dieu que nous portons. Acceptez cela comme Paul, dans Galates 1, l'a écrit. Vous avez la parole que je vous ai prêchée. Vous ne l'avez pas reçue en tant que parole d'homme, mais telle qu'elle est réellement en tant que parole de Dieu, qui aussi, telle qu'elle est réellement en tant que parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. C'est réellement la parole de Dieu que nous vous prêchons. La parole de Dieu, avec toutes les promesses, encore aujourd'hui, ne reviendra pas sans effet à Dieu, mais elle produira l'effet pour lequel elle l'a été envoyée. Si vous l'acceptez, dites Amen. 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 Oui, nous l'acceptons. Avant la prière, je voudrais demander que tous ceux qui ont une requête particulière, qui puissent maintenant lever leurs mains, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partout, les mains se sont levées. Et nous allons ensemble croire et ensemble prier. Nous voulons chanter ce cœur, crois seulement, de tout notre cœur. Et être dans la bonne disposition devant le Seigneur et venir devant sa face. Savoir que tout est accompli. Comment est-ce que Dieu ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son Fils. Dieu nous a bénis de toute bénédiction qu'il avait dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul, l'apôtre, l'a écrit. Et c'est encore écrit aujourd'hui et c'est valable aujourd'hui. Acceptez-le pour vous et pour vous tous, pour lesquels nous allons prier aussi. Acceptez ces choses. Chantons dans la foi, crois seulement. Amen. croyez de tout votre cœur. Acceptez ça. Cela vous a été accordé par Dieu. Nous voulons maintenant ne pas seulement prier, mais aussi remercier le Seigneur, rendre grâce. Prions. Bien-aimé Seigneur, toi le Dieu éternel, tu as fait des promesses et tu les as accomplies. Nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant. Maintenant où tu achèves ton œuvre. Maintenant où le dernier appel retentit. Maintenant où, Seigneur, tu rassembles ton peuple devant ta face pour parler avec nous. Bénis tous ceux qui sont venus devant. Bénis tous ceux partout où ils sont, dans la salle et dans le monde entier. Exauce, confirme ta parole. Accorde ta grâce. Sauve, guéris, délivre et baptise d'esprit et de feu. Bien-aimé Seigneur, à toi nous disons merci. Et ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Alléluia. Vous qui avez cherché et trouvé le salut, acceptez-le. C'est accompli, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mon Dieu, accorde-le maintenant à tous ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, que dans leur cœur ils puissent croire que tu les as agréés selon la parole de l'Écriture. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, tous ceux qui croient en son nom. Vous qui avez attendu la guérison, acceptez votre guérison dans la foi. Acceptez votre guérison dans la foi. Elle a été accomplie sur la croix à Golgotha. À la même heure, à la même minute, les deux, le salut, le pardon, la réconciliation, la guérison, tout, tout nous a été accordé par Dieu dans ce grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et sont amen. Et maintenant en toi, en nous, en vous, dites, j'accepte ma guérison et je remercie le Seigneur pour ma guérison qui est accomplie. Croyons à la parole de la foi, de la croix. Aussi tous ceux qui ont un lien quelconque. Acceptez que le Seigneur vous a délivré. Il vous a délivré. Le message de la croix est le message du salut que Dieu nous a confié. Et ensemble, ensemble, nous remercions, nous te remercions, toi le Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as déjà fait et pour ce que aujourd'hui, dans notre, aujourd'hui parmi nous et dans le monde entier, pour ce que tu fais et tu as fait. Loué soit ton merveilleux nom, maintenant et dans toute éternité. Allez dans la foi et remerciez Dieu pour ce jour. de ce qu'il vous a exaucé et vous a accordé selon vos prières. Loué et exalté soit le nom du Seigneur.
Amen.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore très rapidement, déjà maintenant l'annonce, Dieu voulant, nous, donc, au vendredi de Pâques, nous aurons une réunion à Berlin, samedi à Prague, et dimanche à Bratislava, nous allons simplement utiliser le temps de vendredi, de Pâques, samedi et dimanche, pour aussi dans d'autres villes porter la parole du Seigneur. Dites-le à tous, ce sera de nouveau dans l'hôtel Hilton à Berlin. Nous allons l'annoncer déjà dans la lettre circulaire et Dieu voulant, nous nous retrouverons donc le premier week-end, le 1er mars, non, le 1er avril, pour remercier Dieu. Ce qui me concerne, mon cœur est aussi plein de reconnaissance pour les 50 ans que le Seigneur, dans lesquels le Seigneur m'a porté dans le ministère et m'a gardé, m'a conservé. Et ensemble, nous allons ensuite remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et a fait sur toute la terre. Aussi, de ce que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de porter le message dans le monde entier, dans tous les peuples, quand nous pensons à combien de langues, dans combien de langues il est encore traduit, pas seulement ici dans les 13 langues qui d'ici sont envoyées dans le monde entier, mais partout il y a encore des traductions qui sont faites dans les, comme il est écrit, de toutes les langues et même les tribus. Et le Seigneur fait ainsi son œuvre. Pensez à moi dans le voyage actuel qui aura lieu mercredi tard l'après-midi, durera jusqu'au 20 mars. Donc pensez à moi en Malaisie et à Burma, partout où Dieu a ouvert des portes et où il y avait des vieux contacts et des nouveaux qui se sont ajoutés, de manière que nous pouvons porter la parole du Seigneur, comme nous le disions auparavant, jusqu'à que le dernier ait entendu l'appel et soit sorti, et que le nombre soit plein. Recevez des salutations à tous, vraiment à tous, pour tous, dans tous les pays voisins, en Roumanie particulièrement, que Dieu vous bénisse, de la Roumanie. D'une manière particulière, nous l'avons souvent dit, la Roumanie est le pays en Europe, comme le Congo, la République du Congo en Afrique. Ce sont des milliers qui croient la parole, croient le message de l'heure. Et dans différentes églises, ils se rassemblent régulièrement, encore aujourd'hui. Ils sont en ligne et en liaison avec nous et avec le Seigneur. Que tout soit béni dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les nations. Comme déjà dit, pensez à moi. Et nous sommes et nous restons dans le Seigneur, liés les uns avec les autres, particulièrement tous nos frères dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse, le frère Didier et tous les frères qui sont ici, le frère Inodi, tous les frères, sans nommer les noms, parce que c'est tout un problème pour moi, quand on mentionne un, qu'on ne mentionne pas l'autre, alors ils sont un peu attristés. Ne soyez pas attristés, le Seigneur connaît les siens. Il connaît ses serviteurs qui de tout son, leur cœur le servent. Particulièrement eux. Nous souhaitons à notre frère et à notre sœur Kupfer, nous leur souhaitons particulièrement les bénédictions dans toutes les années, depuis 35 ans, et chaque week-end à Zurich, chaque week-end à Krefeld, chaque premier week-end donc à Krefeld, dernier week-end à Zurich. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre fidélité, que Dieu vous bénisse, le frère Didier, tous les frères, le frère Tati, tous les frères, que le Seigneur vous bénisse. Tous dans le royaume de Dieu ont un devoir, et ils l'accomplissent. Et aussi, tous ceux qui nous ont salués, et nous leur souhaitons aussi de tout notre cœur, dans le monde entier, les riches bénédictions de Dieu. À lui, le Dieu Tout-Puissant, appartient seul l'honneur, maintenant et dans toute éternité. Amen. Nous nous levons encore pour la prière finale. Frère Schmitt va encore prier avec nous. Mon Dieu, Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Moi, de ma part, je suis reconnaissant pour la grâce et la fidélité, mon Dieu, car nous avons la grâce tous de reconnaître le temps dans lequel nous vivons, ô Dieu, que maintenant les Écritures s'accomplissent telles que tu nous l'as montré pendant ce week-end. Et nous reconnaissons que ton retour est proche. Ainsi, accorde-nous à tous ta grâce, à chacun individuellement, petit et grand, âgé et adulte et jeune, et tout ce qui ne peut pas être ici, mais qui écoute en ligne, que ensemble, comme d'une seule bouche, nous puissions t'apporter l'honneur, la louange et l'adoration. Car tu nous as parlé par ta parole, nous te demandons, Seigneur, que ce qui a été dit de ta part, en nous, puisse produire la foi et que nous puissions, Seigneur, te louer, t'exalter pour cela, te rendre grâce. Car tu nous as accordé ta grâce, Seigneur, sois avec nous. Demeure avec chacun, comme déjà mentionné, avec tous ceux qui portent ta parole dans tous les pays, dans toutes les langues, dans tous les endroits, ô Dieu, et aussi là-bas où ils sont seuls, mais qui puissent savoir qu'ils ne sont pas abandonnés de toi. Accompagne chacun, sois avec nous pour l'honneur de ton nom. Amen. Et que tout le peuple dise Amen.
Amen.
Amen. Amen.